Les cours du Collège de France, Nalini Anantaraman, chère géométrie spectrale.
Alors bonjour à tous. On va continuer de parler de convergence forte pour des matrices aléatoires hermitiennes. Donc d'après les travaux de Agrouf et Thor Bjørnsen, alors quelle est la situation donc pour un entier, pour des entiers n positifs, on regardait des matrices aléatoires. Donc R matrice aléatoire hermitienne indépendante et de taille n croix n. Donc choisie selon une loi gaussienne. Donc choisie selon ce qu'on appelle parfois la loi GUE, les matrices gaussiennes hermitiennes indépendantes. On a pris des coefficients B0, B1, BR, qui sont des matrices de taille M. Alors, a priori, hermitienne complexe, mais on se restreint aux classes symétriques réelles. Alors, la dernière fois, je pense, inquiété pour rien, hein, parce que ce que j'avais dit, c'est que je vais faire une preuve en supposant que les coefficients sont réels. Mais en réalité, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, parce que quand on a une matrice complète hermitienne, quitte à doubler la dimension, on peut toujours la voir comme une matrice symétrique réelle sans changer le spectre. Donc je pense qu'en fait, cette restriction, j'ai fait cette restriction de manière à pouvoir emprunter des idées, hein, comme j'ai dit, à un article de Freuseux, Hassler, Spitzer sur la théorie spectrale. D'opérateurs de Schrödinger sur des graphes. Et puis, à la limite, on a une algèbre, une C étoile algèbre, avec un état tracial fidèle. Et puis, je crois que je les avais appelés X1. Il sert des éléments auto-adjoints de A qui suivent libre et famille libre semi-circulaire. Donc ça revient à se donner explicitement tous les moments, hein, toutes les traces de polynômes non commutatifs en Lie ici. On avait formé, donc pour n fixé, on avait formé un opérateur hermitien qui est la somme des bi à i plus b0 tens d'identité. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans les matrices de taille n tense les matrices de taille n, et puis un élément hermitien. Et puis, à la limite, je crois que je l'avais appelé petit h, l'opérateur limite, c'est la somme des bi tense ipsi, plus B0, tensoriel, identité. Donc l'élément identité de l'algèbre A. Hein, et le but, c'est de montrer que les spectres, qu'avec une grande probabilité, ou même presque sûrement, les spectres deviennent proches. Donc le but, c'est de montrer que le spectre de HN est inclus dans le spectre de H plus moins epsilon epsilon avec grande proba ou même presque sûrement. Parce que ce qu'on avait dit, c'est qu'il y a cette astuce de linéarisation de Gilles Pisier qui dit que si on sait montrer ça, ça démontre en fait la convergence, ce qu'on appelle la convergence forte de cette famille vers celle-là. Et pour comparer les spectres, pour ça c'est une idée assez classique, c'est qu'on regarde la résolvante ou la transformée de Stieltjes. Et dans l'article de Hadrup et Tangjonsson, ils travaillent avec des transformées de Stieltjes matricielles. Autrement dit, le paramètre lambda, qu'en théorie spectrale, on a tendance à prendre comme égal à un scalaire, en fait, on va le prendre dans le demi-plan, le demi-espace de Ziegle, qui est l'ensemble des matrices X plus Y, avec X et Y réels et Y définis positifs. Alors, en réalité, je pense qu'à la fin, pour comparer les spectres, il suffit de répondre lambda à un scalaire, mais toute une partie de l'analyse a lieu, en fait, dans le demi-espace de Ziegle. Alors, on voit les deux quantités, ces transformées de Stieltjes matricielles en question, c'est ce qu'on avait à noter, donc Gm de lambda, qui est, alors, on prend alors, à l'ordre fini n, on prend l'inverse de lambda moins hn. Puis, on prend la trace. Alors, c'est là. Non, sur la première composante, on ne prend pas la trace. On prend la trace sur la deuxième composante. Donc ça nous fait une matrice aléatoire de type M, et après, pour qu'elle devienne déterministe, on prend l'espérance par rapport à la composante aléatoire. Et puis, la transformée de Stieltjes limits, on va l'appeler G de lambda, c'est identité fois la trace limite taux appliquée à lambda tensorisé avec l'identité de A moins H moins 1. Alors on va essayer de montrer que ces deux choses-là sont proches, et après j'expliquerai pourquoi ça implique que les spectres sont proches. J'avais un petit peu commencé à en parler la dernière fois, mais j'espère le faire de manière un petit peu plus propre aujourd'hui. Mais ça, c'est une idée assez classique, hein, que si on sait démontrer que les résolvantes sont proches, les spectres alors doivent être proches. Donc, le travail, c'est d'arriver à montrer que, voilà, que ces deux quantités sont proches quand n devient grand. Alors, ces deux. Ce qu'on peut montrer, c'est que si je prends lambda dans le demi-espace de Ziegle, ces deux quantités ne le sont pas, mais leurs opposés le sont. Donc, moins. On va plutôt travailler en fait avec, je vais l'appeler peut-être Zn de lambda, c'est moins Gn de lambda. ça qui appartient toujours au demi-espace. Et c'est, en fait, c'est pour avoir ces, c'est pour ça que j'ai besoin que les BI soient réels. Et puis, si je prends l'opposé, si je prends z de lambda qui est moins g de lambda, ça appartient aussi au demi-espace de Ziegler. Enfin, il y a une proposition qui dit que ce demi-espace de Ziegler, il est stable. Il est stable si on fait un certain nombre d'opérations. Donc, si je prends une matrice et que je lui associe moins z moins 1, et c'est pour la deuxième propriété en fait que j'ai besoin des paramètres réels. Si je fais transposer B ZB avec B réel, alors, peut-être inversible, si je veux préserver la stricte positivité du... Et plus généralement, c'est stable par homographie. En fait, c'est une espèce de généralisation du demi-plan de Poincaré. Si je fais AZ plus B... sur CZ plus D moins 1, où la matrice AB ça c'est une matrice 2M fois 2M hein. C'est une matrice symplectique. Donc là, c'est une matrice de... Les ABCD sont des matrices MM, et là, c'est une matrice écrite par bloc. Et le fait d'être symplectique, ça, c'est équivalent à des relations sur les ABCD que je vais peut-être retrouver. Je veux que transposer C fois A soit symétrique, transposer D fois B soit symétrique, et transposer DA moins transposer BC soit égal à l'identité. Donc ces deux exemples-là sont des cas particuliers. Alors, puisqu'on est parti pour. Puisque je suis parti pour dire quelques généralités sur le demi-espace de Ziegler, en fait, il est muni de toute une famille de métriques. C'est brosse, ça va pas trop loin. Alors, ce demi-espace de Ziegler, il est muni d'une famille de métriques finslériennes. Alors, une métrique finslérienne, c'est presque la même chose qu'une métrique riemannienne, mais je demande pas que les normes sur les espaces tangents soient des normes euclidiennes, ça peut être des normes... Elles viennent pas forcément d'un produit scalaire. Et là, en fait, elles sont indexées par P allant... P peut varier entre 1 et l'infini. Et en fait, il faut regarder donc la distance indice P entre deux matrices, Z1, Z2, dans le demi-espace de Ziegler. Donc c'est comme pour une métrique riemannienne, hein, c'est l'infimum sur toutes les courbes qui vont de Z1 à Z2 de l'intégrale d'une scène terme, faut définir une scène ternome de gamma, gamma point de t, p, dt. Et la norme P d'une matrice. Alors, la norme dépend, comme dans une métrique riemannienne, la norme dépend du point. Je vais la noter peut-être comme ça. J'ai une norme qui dépend de point. Et la norme, comment je vais noter ça? Si j'ai une matrice W, donc, et que je suis en un point Z du demi-espace de Ziegler. Donc là, j'ai ma matrice W. Sa norme P au point Z, c'est la trace alors, c'est Y moins un demi W étoile Y moins 1 demi fois Y moins 1 demi W Y moins 1 demi. Faut prendre tout ça à la puissance P sur 2. Ouais. Je vais peut-être plus. Je vais peut-être le noter comme ça. Je prends tout ça à la puissance P sur 2 et à la puissance 1 sur P. Et ce que je vais appeler WY, c'est Y moins 1,5 WY moins 1. Donc c'est une, chacune de ces. Donc l'espace hyperbolique habituel, c'est le cas M égale 1, auquel cas toutes ces métriques sont les mêmes. Ziegler. Il avait considéré le cas P égale 2, qui donne une métrique riemannienne. Et dans l'article dont je m'inspire de Hassler, Spitzer, non, c'est non, Freuse, Hassler, Spitzer, ils ont considéré le cas P égale l'infini. Alors pour P égale l'infini, ça veut dire. C'est la norme opérateur. Non, c'est, dans le cas infini, c'est la norme opérateur. Bon, c'est pour une question de. Pour que les. Ils ont décidé que c'était ce choix-là qui rendait les estimations les plus commandes, mais en fait, chacune. C'est un exercice, mais pas très facile du tout, de montrer que chacune de ces distances sont préservées par les homographies. Ça, je vais appeler ça des homographies. Pour compléter un petit peu l'analogie avec le cas plus courant du 10 de Poincaré, du demi-plan de Poincaré, il y a aussi un modèle du. De même que pour le demi-plan de Poincaré, il y a le modèle du 10 qui lui est équivalent. Pour ce demi-plan de Ziegler, il y a aussi le modèle du 10 qui lui est équivalent. Si je prends une matrice et que je lui associe Z moins I fois l'identité. Z plus I fois l'identité moins 1. Là, j'atterris dans l'ensemble des matrices de normes strictement inférieures, des matrices symétriques. Donc l'image, c'est les matrices symétriques. Je vais les est de norme opérateur strictement inférieur à 1. Donc il y a le modèle du demi-espace et le modèle du disque. Alors dans le disque de Poincaré, il y a le lemme de Schwarz. Donc c'est dans le cas M égale 1. Hein, le lemme de Schwarz, ça dit que si on a une application holomorphe, donc là le disque de Poincaré, je vais juste le noter D, du disque dans lui-même. Alors, elle diminue toujours les distances pour la distance hyperbolique. Et il y a une dichotomie. En fait, on ne va pas forcément utiliser le cas d'égalité. Mais déjà, ce qui est assez remarquable, c'est qu'elle diminue toujours les distances. Hein, pour la distance hyperbolique, ça, c'est une application du principe du maximum. À partir du moment où je suis holomorphe et que j'envoie le disque dans lui-même, je diminue les distances hyperboliques. Mais ça, je pense qu'on ne va pas l'utiliser forcément. Parce qu'on va, et en fait, il y a une dichotomie. Soit phi est une homographie, soit elle diminue strictement toutes les distances. Donc, soit c'est une transformation de Möbius. Soit, en fait, les distances sont strictement diminuées dès qu'on a deux points différents. Vous arrivez à voir, là, quand c'est vraiment tout en bas? Ça, c'est si z différent de z prime. Donc c'est assez remarquable parce que, enfin, c'est une idée que j'ai vue dans cet article de Freuse, Hassler, Spitzer. En fait, l'idée, ça va être de montrer que ces transformées Stieltjes, la transformée Stieltjes limite, elle satisfait une équation de points fixes, et pour n fini, le gn lambda, il satisfait presque une équation de points fixes. Presque la même avec une petite erreur, et donc je vais vouloir montrer, pour montrer que, en fait, si j'ai une application qui a un point fixe et qui est contractante, et si j'ai un point qui satisfait presque l'équation de point fixe, et bien alors il est forcément proche du point fixe. Donc on va vouloir montrer que, voilà, on va vouloir faire apparaître des applications contractantes, et ce qui est assez remarquable, c'est que, en fait, voilà, si on a. En fait, si on a une transformation holomorphe du demi-plan dans lui-même et qu'on voit sur la formule que c'est pas une homographie, on sait déjà qu'il est contractant. C'était la première fois que je voyais utiliser comme ça la réciproque du lemme de Schwarz. Après, il faut travailler un petit peu pour calculer la constante de contraction. C'est ça qu'on va le faire à la main là. En fait, voilà, par exemple, si je prends dans le demi-plan de Poincaré, si je prends la somme de transformations de Möbius, je sais déjà que c'est contractant. Enfin, sauf si ça simplifie miraculeusement. Et à partir du moment où je vois sur la formule que c'est pas une homographie, je sais déjà que c'est contractant. Alors, j'ai pas encore écrit le point fixe. Alors, à la limite. En fait, on a somme des BI, G de lambda, BI, G de lambda, plus B0 moins lambda, G de lambda égale 0. Ça, je vais l'admettre, avec un petit peu... En fait, on connaît hein, tous les... Il faut se souvenir de la définition du G de lambda et du fait qu'on connaît tous les moments de ces X1, X2, XR qui suivent des lois semi-circulaires. Donc, avec un petit peu de mauvaise foi, je peux dire que c'est juste un calcul sur des séries génératrices. Cela dit... Il faut vraiment faire le calcul dans le bon ordre si on veut qu'il paraisse simple. Et je renvoie, pour la démonstration de ça, je renvoie au livre de Mingo et Speicher, par exemple, où c'est fait de manière assez efficace. Donc ça, on va l'admettre. Et ça, je vais l'écrire comme, une équation de point fit. Je vais écrire... Je vais mettre le G de lambda en facteur. D'accord. Il me manque un bout. Là, il n'y a plus d'identité. Ouais. Donc ça veut dire que si je pose z de lambda, et je vais peut-être, comme pour l'instant le lambda va être fixé, donc je vais peut-être pas, enfin je vais voir, je vais peut-être arrêter de mettre z de lambda. Hein, bon, si je regarde l'opposé de g de lambda, il vérifie, z de lambda c'est, alors c'est somme, c'est ça normalement. Donc, je vais l'écrire comme voilà, c'est phi, une certaine application phi lambda de z lambda ou phi lambda de w, c'est somme des bi w bi plus lambda moins b0 moins 1. Il y a peut-être un moins, oui. Alors ça, je vois tout de suite, avec ce que j'ai dit, normalement, je vois tout de suite que elle va du demi-plan de Ziegler dans elle-même, hein, parce que chacun, si double, il faut se souvenir que la partie imaginaire de lambda est strictement positive. Donc chacun des BI, W et lambda, BI, il est dans le demi-plan de Ziegler. Si je les additionne, je préserve la condition d'être de partie imaginaire positive. C'est encore amélioré. En fait, c'est selon le fait que cette partie imaginaire soit non nulle qui va donner la contraction, puisque je vais envoyer le demi-plan de Ziegler. Enfin, ça, ce facteur-là empêche la transformation d'être une homographie, si on veut. J'envoie le demi-plan strictement dans lui-même, puisque je remonte toutes les parties imaginaires. Et après, quand je fais moins la matrice inverse, je reste aussi dans le demi-plan de Ziegler. Donc cette transformation, en fait, elle préserve. Donc elle envoie le demi-plan de Ziegler même dans un sous-ensemble strict, puisqu'elle augmente strictement. Voilà. Et alors j'ai dit que là, le fait de diminuer les distances, on peut le voir juste par un principe du maximum. J'ai vérifié qu'on peut aussi... Là, c'est un petit peu plus compliqué de parler de fonction holomorphe, puisqu'on est quand même en dimension plus grande, mais je pense que le même principe du maximum permet de dire aussi, qu'elle diminue les distances. Et en fait, par contre, pour montrer qu'elle contracte, on va vraiment faire le calcul à la main. Donc, et là, on va utiliser la distance, je ne sais plus si je l'avais donné un nom. Voilà, on va utiliser la distance infinie pour... parce que je pense qu'en fait, on pourrait faire le calcul avec n'importe quel P, mais c'est vrai que la norme opérateur est un peu plus simple. Alors, concernant GN, montrer qu'il satisfait presque l'équation de point fixe. Et je vous dis, je vous dis comment ça marche. Il y a une proposition. Apparemment, dans certains milieux, ça s'appelle master equation, équation maître. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai... Oui, alors, Gn lambda, c'est la quantité aléatoire qui est définie par l'identité fois la trace de la résolvante. Donc, tout ça... Et puis, normalement, je mets une barre quand je prends... C'est peut-être pas un très, très bon choix de notation, mais la barre, c'est quand je prends l'espérance. Je vais essayer de me tenir à ça. L'équation maître, elle me dit que l'espérance, c'est une égalité. Donc... l'espérance de la somme des BI GN, je vais peut-être arrêter d'écrire les lambda, pour l'instant est fixé. Donc là, c'est l'identité de taille M. Donc ça, c'est vraiment une identité algébrique. Et ce qui m'empêche de... Et qui vient d'une intégration par partie, hein, ça vient d'une propriété déglossienne. Ça vient de une propriété déglossienne. Alors là, c'est l'intégrale, c'est pour tout f. Je peux écrire l'intégrale de f' de x exponentiellement x carré sur 2 dx. C'est intégrale de x f de x exponentiellement x carré sur 2 dx. Ou à plusieurs variables et avec des notations probabilistes. Si je prends des variables aléatoires x1, xm, indépendantes, identiquement distribuées et suivant des lois normales de variance sigma, la même identité à plusieurs variables me dit que l'espérance de la dérivée partielle « Donc maintenant, f, c'est une fonction de m variable. C'est l'espérance de x j fois f. Et puis, il y a peut-être la variance qui sort ici. Donc ça, c'est une propriété générale des gaussiennes et dont on peut montrer que découle cette propriété. Alors, c'est du calcul, c'est un petit peu long, hein, parce qu'il faut calculer, en gros, les... Oui, c'est du calcul différentiel dans un espace de matrice. Donc ça, c'est la première identité. Et ça ne nous donne pas ce qu'on veut parce que nous, on veut une équation de point fixe sur Gn bar. Et comme cette quantité n'est pas linéaire, l'espérance, je ne peux pas passer l'espérance en dessous, mais on va utiliser une propriété de concentration de la mesure pour dire que ce Gn... il est très proche de Gn bar. Donc il y a une inégalité de points carrés. Qui est liée à des phénomènes de concentration de la mesure, hein, qui permet de dire qu'en fait... une variable aléatoire est proche de sa moyenne sous certaines hypothèses. Alors l'inégalité de Poincaré usuelle, c'est-à-dire pour la mesure de Lebesgue, hein, ça nous dit que si on a une fonction sur un ouvert borné, il faut peut-être qu'il soit assez régulier. Ça nous dit que U moins sa moyenne en normale 2, c'est plus petit qu'une constante fois la normale 2 du gradient de U. Et U bar, c'est la moyenne de U sur notre ouvert borné. Donc ça nous dit que si on sait contrôler le gradient, on sait aussi dire que U ne peut pas s'écarter trop de sa moyenne. Et on va utiliser une version gaussienne de l'inégalité de Poincaré. Pardon ? Oui. C'est vrai. Oui, sinon la moyenne, oui. Donc il y a une version gaussienne. Alors, là on prend, je vais décrire tout de suite à plusieurs variables. On est pareil sur RM muni d'une mesure gaussienne. Avec une variance, on va dire sigma carré fois l'identité. Et ça va nous dire que l'intégrale. Donc ça, c'est ma mesure de probabilité que je vais appeler nu, si on veut. L'intégrale de f moins sa moyenne dni de x, c'est plus petit que, je pense qu'il y a la variance comme ça qui sort, l'intégrale de gradient f en x dni de x. Ou avec des notations probabilistes, ça me dit que la variance ça me dit de f en x, x c'est un vecteur gaussien qui suit cette loi normale, est majoré par sigma carré l'espérance du gradient de f. Alors, je ne vais pas du tout faire le calcul en détail. C'est quand même, voilà, après, il faut calculer toutes les. Ce qui est compliqué, c'est que c'est des. Tout ça, c'est. J'ai une loi gaussienne sur un espace de matrice, donc il faut calculer vraiment le gradient coordonnée par coordonnée. Hein, c'est un petit peu longuet. Mais en fait, ça permet de montrer. Je vais effacer ça. Ça permet de montrer que dans cette quantité-là, l'espérance du carré, c'est quasiment... Là, j'ai un carré. Hein, l'espérance du carré, il est proche du carré de l'espérance. Donc, je ne vais pas faire du tout le détail, mais... Donc c'est quasiment la même chose, l'espérance de cette quantité quadratique, c'est quasiment la même chose que le carré des espérances. Et si on calcule l'erreur, alors là, il sort... Il sort un 1 sur n au carré qui vient d'une part de la variance et d'autre part du fait que dans Gn, il y a une trace normalisée. C'est important que la fausse soupe dans Gn y ait une trace. Et après, le gradient, en gros, il va faire sortir. Dans Gn, il y a du 1 sur. Il y a quelque chose comme ça. Donc quand je le dérive une fois, moralement, hein, il va sortir ça au carré. Et puis je réélève au carré, parce que je prends le carré du gradient. Donc. C'est pas très surprenant. En fait, ce qui va sortir, c'est la norme de la matrice partie imaginaire de lambda inverse à la puissance 4. Et la puissance 4, elle vient vraiment du fait que déjà dans la dérivée, il y a une puissance 2 et je réélève ensuite au carré. Et pour la convergence forte, voilà, il y a deux choses importantes pour plus tard pour la convergence forte. C'est d'une part d'avoir une erreur en n carré. Ça, on l'avait vu. On l'avait vu que pouvoir faire des erreurs à l'ordre n carré, c'est important. Et d'autre part, c'est d'avoir une erreur qui dépend de lambda comme une puissance et non pas une exponentielle, par exemple, de im lambda. Donc, c'est puissance.
Et donc là, le premier terme de...
Il y a pas, non, alors c'est des choses que je suis en train d'apprendre. Pour GUE, effectivement, par exemple, dans le cas qu'on avait vu des graphes réguliers aléatoires, il y a aussi un terme d'ordre 1. Et il faut connaître assez bien le terme d'ordre 1 pour montrer que la mesure spectrale associée, son support, c'est celui qu'on veut. Pour GUE, il n'y a pas de terme d'ordre 1. L'année d'après, quelqu'un qui s'appelle Schulz a fait la preuve pour GOE. Et là, il y a un terme d'ordre 1. Et il faut montrer que ce terme d'ordre 1 est associé à une mesure spectrale dont le support est celui qu'on veut. Mais donc pour GUE, finalement, il n'y a pas le terme d'ordre 1, donc il y a un petit peu moins de... Donc effectivement, c'est vraiment le calcul ou des raisons de symétrie en fait, qui montrent qu'il n'y a pas de terme d'ordre 1. Donc ça veut dire... Ah, j'aurais peut-être pas dû effacer... Ça veut dire que en fait, en nombre d'opérateurs, si je fais somme des BI, et je vais peut-être donner un nom à cette norme-là, bon, je dis que lambda est fixé, mais je vais, il va tout le temps, tout va dépendre en fait de la norme de l'inverse de im lambda, donc je vais lui donner un nom peut-être. Donc C1, c'est la norme, je prends l'inverse de la partie imaginaire de lambda, moins 1. Et puis peut-être j'aurai besoin de temps en temps de la norme de lambda, la norme opérateur. À chaque fois, c'est des normes opérateurs. Donc en fait, là, ce que je sais, c'est que ce que ça va me donner, en norme opérateur. Voilà, ça c'est plus petit. Et je vais, en fait, partout il y a des constantes qui dépendent des BI, je ne vais jamais les écrire. Les BI sont fixés une fois pour toutes. Il y a un peu partout, dans toutes mes estimées, il y a des constantes qui dépendent des normes des BI, je vais pas les écrire. Donc ça, je veux réécrire ça en disant que Gn satisfait presque l'équation de point fixe. Ça me dit que somme des BI, Gn BI plus B0 moins lambda, Gn, c'est moins l'identité plus quelque chose qui est en norme d'opérateur, c'est grand O de C1 à la puissance N2. Et ça, ça me dit que... Alors là, il y a c'est Gn bar. Je vais poser Zn qui est moins Gn. Ça me dit que moins Gn bar. Zn, c'est moins somme des BI. Zn BI plus lambda de B0 moins 1. Et l'erreur, du coup, je repère peut-être une puissance. Parce que quand j'inverse celui-là, j'ai encore la partie imaginaire de lambda qui va... Donc pour l'instant, je suis en norme d'opérateur. Donc Zn moins phi lambda de Zn en norme d'opérateur, c'est grand O de C1. Il y avait une question ? Oui.
1 sur lambda h carré, où est-ce qu'il va, il reste là?
Non, ça c'était juste un petit brouillon pour essayer de faire comprendre pourquoi on récupère une puissance 4. C'est un petit brouillon dans la marge. Voilà, donc l'idée c'est que Zn est satisfait. Donc l'idée qu'on veut mettre en œuvre, c'est que Zn satisfait presque l'équation de point fixe. Si j'arrive à montrer que lambda est contractante, mais là je vais devoir le faire un petit peu à la main pour récupérer la constante de contraction. Et justement, l'idée, c'est de plus... Là, pour l'instant, je compare les choses en norme d'opérateur, mais l'idée, finalement, qui vient de cet article de Hassler, Freuse-Spitzer, c'est de dire qu'en fait, c'est plus naturel de comparer les choses dans ces distances dp, parce que c'est elles qui satisfont ce lemme de Schwarz, en fait. Donc, on va montrer, Enfin, on sait déjà plus ou moins qu'elle est contractante à cause du, en se disant qu'il y a un lemme de Schwartz dans le demi-plan de Ziegle, mais on va montrer à la main qu'elle est contractante en fait pour récupérer la constante, parce qu'on veut savoir comment la constante dépend de lambda. Et donc, si j'arrive à mettre ça en œuvre, ça va m'impliquer que Zn est proche du point fixe. Alors, il y a quelques bornes a priori qui vont être utiles. Peut-être ce que j'aurais dû dire tout de suite, hein, c'est que si je fais lambda tensorial identité moins un opérateur hermitien, avec partie imaginaire de lambda strictement positive. C'était un peu sous-entendu depuis le début que je récupère quelque chose qui est inversible. Et la norme de l'inverse, la norme opérateur de l'inverse, c'est plus petit, c'est borné par la norme de l'inverse de lambda que j'ai appelé C1. Hein, donc ça, c'était déjà un petit peu caché dans ce que j'ai dit avant, mais on va l'utiliser encore un peu. Déjà, ça nous dit que... alors, je vais peut-être écrire phi W, c'est moins somme des BI WBI plus lambda c'est comme ça. Alors ce principe, ça me dit déjà que phi, en fait l'image de phi, donc on... Donc phi, en fait, là, l'envoie le demi-espace de Ziegle dans, non seulement dans lui-même, mais dans le sous-espace de Ziegle intersecté les matrices de normes plus petites que C1. Et puis aussi, par leur définition, parce que c'est... Ouais. Le Zn en norme d'opérateur, il est plus petit que C1. Et aussi, alors ouais, peut-être que je vais essayer de garder Z pour le point fixe. Si ça me... Z, c'est vraiment Z, c'est moins G de lambda, donc c'est le point fixe de l'application phi. Et Zn, c'est moins Gn de lambda. J'aurais pu me passer de ces moins si au départ j'avais défini la résolvante dans l'autre sens, mais j'ai suivi l'article en question, donc j'ai du coup. Donc, de par leur définition, à la fois le Zn est en norme d'opérateur et le plus petit de C1, et le point fixe Z aussi est dans cet ensemble de normes plus petites de C1. Après, il faut que je mette bout à bout un certain nombre d'estimés. Peut-être, on va tout de suite montrer d'où vient la contraction. Donc, ce qu'on sait, c'est que... Enfin, ce qu'on sait, je ne vous l'ai pas fait, mais disons que par un principe du maximum, si je fais la somme des BI, WBI, ça diminue la distance des... ça diminue, cette application, elle diminue les distances, la distance des infinis, et aussi... Alors, l'inverse, c'est une isométrie. Pour la distance des infinis. Celle-ci, elle diminue les distances. Ça serait même une isométrie si on avait pris R égale à 1. Mais après, si j'en somme plusieurs, c'est pas forcément une isométrie. Donc c'est, si R égale 1, c'est une isométrie, et si R est plus grand que 1, ça diminue les distances. Et si j'ajoute à W une matrice réelle, c'est aussi une isométrie. Alors là, du coup, en fait, c'est ce qui va vraiment donner la contraction explicite, c'est le fait d'ajouter lambda. Donc, la proposition suivante, en fait, elle évalue l'impact de rajouter lambda. Alors, c'est pas très compliqué. C'est parce que, voilà, quand je... Je vais juste essayer. En fait, si je prends... je vais écrire W, je vais décomposer... En fait, tant que je reste dans les matrices de parties imaginaires plus petites qu'un certain grand K, je vais supposer que Y est strictement positive, hein, c'est dans le cadre de tout à l'heure. En fait, ce qu'on remarque, c'est que le fait de prendre une matrice positive et de lui rajouter une matrice strictement positive, ça augmente. Alors, ça augmente la norme ou la norme de l'inverse. Ça, c'est en fait, c'est strictement plus grand. Voilà, c'est strictement plus grand que 1 plus C fois V Y scalaire V. Si j'ai supposé que Y est contrôlé et que je lui rajoute quelque chose de strictement positif, j'augmente strictement les produits scalaires à condition de prendre C. Alors ça, c'est un petit calcul que je vous laisse faire au brouillon, mais il faut prendre C égale 1 sur K fois C1. Ouais, parce qu'en fait, tu vois, si je prends un Y très très grand et que je lui rajoute une constante, je vais pas avoir ce facteur multiplicatif. En fait, c'est parce que je veux vraiment sortir un facteur multiplicatif. D'accord ? Si j'avais juste voulu dire strictement plus grand que ça, ça aurait été vrai tout le temps, mais si je veux vraiment, comme je veux à la fin faire apparaître une contraction dans les distances, je veux vraiment sortir un facteur multiplicatif, et donc il va dépendre du contrôle que j'ai sur Y. Donc c'est pour ça que ça va être important à un moment de savoir que a priori, je suis déjà dans une région où les normes sont contrôlées. D'accord ? Donc ça implique... Ça, c'est pour pouvoir dire que la norme de Y plus I lambda moins 1... est plus petite que 1 sur 1 plus c fois la norme de y moins 1. Donc ça, c'est une conséquence. Ou alors, je peux aussi dire que si je prends y plus i lambda moins 1 demi fois n'importe quelle matrice, je fais encore une notation, et ça, c'est la quantité qui apparaît dans la définition des longueurs. Hein. Faut se souvenir, alors si j'ai une courbe tracée dans le demi-espace, sa longueur, c'est l'intégrale de... C'est ce que j'avais écrit tout à l'heure, c'est l'intégrale de... la norme du vecteur tangent. Là, j'ai pris P égale l'infini et j'évalue au point gamma de T. Et dans cette norme, voilà, ça c'est partie imaginaire de gamma de T moins 1 demi gamma point de T partie imaginaire de gamma de T moins 1 demi. Donc ça me dit que si j'ai une courbe tracée dans le demi-plan supérieur Ziegle, et si je sais qu'elle reste dans une zone où la partie imaginaire est contrôlée, alors, donc si gamma est entièrement tracé dans la région où Y est plus petit que K, je vais pouvoir dire que la longueur pour cette métrique finslerienne, la longueur de gamma plus I lambda est plus petit que 1 sur 1 plus C fois la longueur de gamma. D'accord ? Donc ça va me permettre de dire que l'addition de partie imaginaire de lambda, elle contracte les distances, mais à condition de savoir que la géodésique, elle reste contrôlée. Alors, comme l'heure tourne, je ne vais pas vérifier tous les détails dans ce qui suit, mais je vais vous dire les étapes. Hein. Il n'y a pas énormément de surprises. C'est des estimations de normes de matrice, mais un peu toujours basées sur le même principe. Donc, les étapes qui restent à franchir, c'est alors c'est de montrer, alors j'ai dit que Zn il était proche de phi de Zn en norme opérateur, il faut convertir ça en une estimation en distance d infini. Au départ je pars de ça. Je suis partie de ça, il faut le convertir en une estimation en norme d infini. Et là, j'ai. Alors. J'ai peut-être. Quand je fais ça, je repère peut-être. Voilà, je repère peut-être quelque chose avec la partie imaginaire. Et en plus, plus là j'ai supposé, j'ai, pour me simplifier la vie, de toute façon n va tendre vers l'infini. Je fais pas les détails, c'est pas tellement. C'est vrai pour des valeurs de n suffisamment grandes. Je vous écris juste ce que j'ai supposé. C'est un 4 sur n carré. Voilà, donc il y a une première étape où on convertit la proximité de point fixe de la norme à l'infini à la distance des infinis. Et je pense qu'on repère une partie imaginaire de lambda. Après, il y a une étape qui vise juste à vérifier qu'en fait, si... Donc, a priori, là, je dessine le demi-espace de Ziegel. Je le dessine comme si c'était le demi-plan de Poincaré. Je sais que Zn, il est... Donc là, je dessine toutes les matrices de normes plus petites que C1. Et je sais que Zn, il est là et que phi de Zn... il y est aussi, et en plus ils sont proches. Qu'est-ce que je voulais faire? Qu'est-ce que je voulais dire là? Ah oui, je veux montrer que en fait, une fois que j'ai ça, je veux montrer que plus que quand j'applique les itérés de phi, je gagne une constante, je gagne un coefficient de contraction à chaque fois. Donc il faut, voilà, ça c'est un petit truc à vérifier. Géométrie dans l'espace de Ziegel. C'est que si j'ai deux matrices dans le demi-espace de Ziegel et je sais toutes les deux qu'elles sont de normes plus petites que C1. Et si... leur distance infinie est petite. Le alpha, ça sera ma quantité en 1 sur n carré. Alors, en fait, je veux montrer que donc les deux points sont proches et sont. Je veux montrer que la géodésie, qu'elle va rester, elle ne peut pas sortir d'une région légèrement plus grande. Alors, la géodésique. Peut-être je devrais dire une géodésique de Z1 à Z2 reste dans un ensemble légèrement plus grand, dans l'ensemble des W tels que la norme de W est plus petite que C1 sur 1 moins alpha. Donc, c'est dire que si je suis dans cette région, j'ai deux points proches de normes plus petites C1 et que je trace la géodésique, bah, elle va rester contrôlée. Et puis, leur norme infinie reste aussi proche. Donc une fois que j'ai vérifié ça, j'ai fini tout ce que je voulais faire parce que je vais appliquer. Maintenant je vais itérer. Et alpha Alpha, ça va être cette quantité C1, 6 sur n carré. Donc l'idée, c'est de montrer qu'ensuite, voilà, je pars de, en fait, c'est de, d'itérer la transformation phi. Et de montrer qu'à chaque fois, par contraction, en fait, on gagne un facteur. Donc j'ai toujours, j'ai mon estimé de départ. Et à chaque fois, je gagne 1 sur 1 plus C à la puissance K. Donc quand je somme tout ça, ça va me faire que la distance infinie entre Zn et φk de Zn, c'est plus petit. Alors il y a une série géométrique qui va se sommer, ça va faire du 1 sur 1 moins C, oui c'est ça, fois mon estimé d'origine. Et ensuite, quand je fais 4 envers l'infini, ça me dit que Zn est proche du point fixe. Alors, je crois que, comme je ne fais pas les détails, je crois que dans l'opération, bon, il faut se souvenir en fait de la valeur de C. C lui-même dépend de la partie imaginaire de lambda, c'était le facteur que j'avais écrit. Au final, hein, si je remets tout ensemble, je crois que ce que j'obtiens, c'est quelque chose comme ça. J'obtiens C1 à la puissance peut-être 7. Voilà, j'obtiens quelque chose comme ça. Je saute tous les calculs parce que je vois que l'heure tourne. Et j'obtiens quelque chose. Alors, je sais, la puissance est peut-être 7 ou 8. Et en norme opérateur, j'obtiens aussi quelque chose du même genre. Et ça, quelque part, à un moment, quelque part, j'ai supposé que n était suffisamment grand. Mais de toute façon, ça c'est pour. Quelque part, j'ai supposé n assez grand. J'ai supposé quelque chose comme ça. Mais de toute façon, mais pour les petites valeurs de n, on peut toujours faire quelque chose de beaucoup plus simple. Parce que de toute façon, Zn moins Z, on sait que chacun des deux, en norme opérateur, il est majoré par... par C1, donc par l'inverse de la partie imaginaire de lambda. Donc ça, j'ai supposé, voilà. Si cette condition, donc si j'ai une condition dans l'autre sens, si j'ai 1/2 plus petit que C1 puissance 4, 1 plus C1, plus C0 sur n carré, je peux toujours faire artificiellement apparaître du 1 sur n carré. Donc les petites valeurs de n, en fait, je peux toujours supposer n suffisamment grand pour me simplifier légèrement la vie. Donc voilà, bon, j'ai dû résumer un petit peu, mais l'idée c'est de... L'idée que j'ai trouvée jolie, voilà, dans cet article de Hassler, Spitzer, Frese, c'est de, comme en fait, c'est toutes les résolvantes en fait qui apparaissent, les transformées Stieltjes, elles vivent un peu naturellement dans le demi-espace de Siegel, c'est d'utiliser la géométrie de cet espace pour faire apparaître des propriétés de contraction. Alors, je vais... bon, voilà, ça, c'est une version un petit peu résumée à la fin. Et je veux quand même dire... je l'avais Alors, comment on conclut à la proximité des spectres? Comment conclure que le spectre de Hn est proche du spectre de H? Voilà, donc je rappelle quand même les définitions. Je vais les réécrire encore une fois. Donc à partir du moment, il suffit de prendre lambda un scalaire. Donc en fait, le lambda, ça va être x plus y fois l'identité de taille m avec y positif. Donc c'est vraiment, on est en train de, quand lambda est scalaire, on est en train de parler de résolvante au sens usuel. J'ai écrit la définition de gm lambda. Et g de lambda, c'est l'identité fois la trace de lambda moins h moins 1. Et on sait que les deux sont proches. Hein. Cette identité-là, les Zn, c'est juste les opposés des Gn. Donc on sait que l'énorme opérateur, on a montré quelque chose du type Gn moins G, c'est plus petit que 1 sur n carré. Et puis, une certaine puissance de l'inverse de la partie imaginaire, 7 ou 8. Et puis, donc C1, c'est la norme de la partie imaginaire. Donc, du coup, maintenant que lambda est scalaire, C1, c'est juste y moins 1. Et C0, c'est module de x plus y. Donc on introduit deux mesures. Donc la mesure à la limite pour une fonction continue, mettons, c'est l'espérance de trace. Non, il n'y a pas d'espérance à la limite, hein, c'est juste comme ça. Donc ça, c'est pour phi une fonction continue. Continue, mettons, sur un voisinage du spectre de H. Et là, cette quantité-là, elle est définie par calcul fonctionnel. Hein. J'ai un élément hermitien dans une algèbre, dans une étoile algèbre. Je peux définir phi de H ou phi est continue. Donc ça, c'est défini par calcul fonctionnel. Ça, c'est à la limite. Et puis, mu n, c'est la quantité analogue, mais pour n fini. Donc là, c'est l'espérance de la trace pour les matrices de taille m fois la trace pour les matrices de taille n de phi de Hn. Des sortes de mesures spectrales. Alors, quel est le lien avec l'IGN? C'est qu'en fait, ce qu'on appelle leur transformée de Stieltjes usuelle, tout à l'heure, on a parlé de transformée de Stieltjes un petit peu généralisée, parce que la variable lambda était matricielle, mais là, on est revenu à des transformées de Stieltjes tout ce qu'il y a de plus classique, donc de mu et mu n. J'en avais g mu de lambda, c'est mu de la fonction 1 sur lambda moins l'argument, hein, bien défini si partie imaginaire de lambda positif. Donc c'est la transformée de Stieltjes, c'est une fonction définie sur le demi-plan supérieur, et puis pareil pour g de mu n. Donc autrement dit, c'est l'intégrale de d mu de t sur lambda moins t. Alors, c'est quoi le lien? Ce petit g mu, quel est son lien avec le grand G? La seule différence, en fait, c'est le fait d'avoir pris la trace ici. Hein, donc, le grand G, c'était une matrice M croix M. Ce petit g, c'est sa trace. Donc, c'est la trace de g de lambda. Peut-être aussi, il y a peut-être des erreurs de signe, non, ça a l'air d'être à peu près ça. Et de même, le petit g, c'est rien d'autre que la trace du grand G, parce que si vous regardez les définitions, la seule différence, c'est que j'ai remplacé l'identité par la trace. Donc, comme je sais que les grands G sont proches, c'est vrai aussi pour les petits g. Du coup, ça, c'est des nombres complexes. Et ça, j'ai la même estime. Et j'ai une estimée du genre 1 plus x plus y plus y, y puissance moins alpha. Si lambda égale x plus y. Et c'est quelque chose de vraiment classique, hein, que si les transformées Stieltjes sont proches, alors les mesures sont proches, en un certain sens. Là, en fait, la chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'on veut savoir contrôler l'erreur. Justement, on veut savoir par quelle norme on contrôle l'erreur. La transformée Stieltjes, c'est rien d'autre que la mesure mu, mais appliquée à une classe de fonctions particulière, qui est dense dans les fonctions continues. Quand on avait fait la méthode polynomiale précédemment, on avait pris des polynômes, mais là, on raisonne avec une autre classe de fonctions test dense. Et à chaque fois, la nouveauté, c'est de voir que cette borne-là, elle permet de contrôler l'erreur entre la différence entre mu de phi et mu n de phi, elle va être contrôlée par une norme CK. C'est ça qu'on veut montrer. Donc, à partir de la proximité des transformées Stieltjes, on veut montrer on veut en déduire que mu n de phi moins mu de phi, c'est plus petit que 1 sur n carré fois une certaine norme de phi qui est contrôlée par un nombre fini de dérivés. Ce que j'avais dit après, comment on conclut, c'est qu'on prend un bon choix de fonction test à support compact de manière à déduire de l'information sur les spectres. Et en fait, on utilise le fait que... donc il y a quelque chose qui est classique. Je pense à la fin, la dernière fois, j'avais montré comment faire le calcul, mais c'était en toute fin d'heure, mais enfin c'est un calcul classique que mu de phi, en fait comment on récupère mu de phi à partir de la transformée Stieltjes, c'est que c'est la limite quand y tend vers 0, alors là il y a aux erreurs de signe près, hein. Je prends l'intégrale de phi de x fois la transformée Stieltjes en x plus y dx. Je prends la partie imaginaire, il faut renormaliser par pi, et puis je fais tendre la partie imaginaire vers 0. J'avais montré un peu comment marche le calcul la dernière fois, c'est parce que quand on calcule cette partie imaginaire, en fait, on voit apparaître la convolée de phi avec une loi de Cauchy. Donc, c'est pas compliqué, c'est une interversion limite intégrale. puis la même chose pour Nuen. Donc je vais appeler Hn de lambda la différence entre les deux transformées Stieltjes. Alors on sait que cette différence elle est petite, mais je ne vais pas juste utiliser qu'elle est petite, je vais utiliser qu'elle est analytique dans le demi-plan supérieur. Donc je vais écrire que mu n de phi, pour montrer quelque chose comme ça, je vais écrire que mu n de phi moins mu de phi, c'est la limite quand y tend vers 0, et toujours aux erreurs de signe près, de moins 1 sur pi, partie imaginaire, de intégrale de phi de x, hn de x plus y, dx. Et en fait, voilà, je vais essayer de contrôler ça par un certain nombre de dérivés de phi. Donc pour faire ça, j'écris que cette intégrale, bah, par une intégration par partie, hein, intégration par partie, je peux l'écrire comme 1 plus d sur dx à n'importe quelle puissance. Le p ici, je vais mettre un p, mais il sera à choisir. En fait, le p ici sera à choisir en fonction du alpha que j'avais obtenu. Donc, j'avais dit c'est 7 ou 8. Donc, en faisant une intégration par partie, je fais porter des dérivés sur phi. Et du coup, le ip, ça va être une version intégrée de Hn, donc ip de lambda, c'est 1 sur factoriel p moins 1, intégrale de h de lambda plus t puissance p moins 1, exponentielle moins t dt. Vous voyez, la difficulté, c'est que je veux faire tendre y vers 0, et dans ma majoration de H, j'ai des inverses de Y. Donc il faut que je vois que quitte à intégrer, faut que je vois que cette intégrale-là, en fait, elle a une limite, elle reste bornée, quitte à prendre T assez grand. Et c'est là, c'est une intégrale sur R. Alors, je veux contrôler cette intégrale quand Y tend vers 0. C'est là que je me rappelle de l'analyticité de H pour faire un changement de contour. Au départ, je suis en train d'intégrer sur l'axe réel, donc je suis en train d'intégrer sur une demi-droite horizontale. Je vais la faire tourner en une demi-droite qui fait un angle 45 degrés. Ça fait 1 sur P moins 1 factoriel, intégrale de H de lambda plus 1 plus IT. Plus i t à la puissance p moins 1 exponentielle moins t et puis exponentielle pardon moins 1 plus i t 1 plus i dt. Et ça, voilà, maintenant que j'ai fait tourner cette quantité là, elle est majorée par je vais avoir du 1 plus norme de lambda plus t. Ce qui est important, c'est qu'en bas, du coup, au lieu d'avoir juste y, alors c'est x plus y, en bas, au lieu d'avoir juste y, j'ai y plus t à la puissance alpha. Oui, pardon, c'est R+. L'intégrale de 0 à plus, là. Et puis, donc, quand je fais le changement de contour, hein, ce bout-là, grâce à l'exponentielle, en fait, il va tendre vers zéro. Donc, voilà, en fait, le fait d'avoir fait tourner la droite, ça me remplace le 1 sur y alpha par y plus t puissance alpha. Et donc, je vais prendre p égale 1 plus alpha, de manière à ce que ce terme-là soit plus petit que celui-là. Donc si je prends p égale 1 plus alpha, celui-là il est plus petit que celui-là. Il faut que je mette des modules partout. Et j'ai toujours le exponentiel moins t qui m'aide. Et donc là, je vois, j'ai une intégrale convergente. Donc en gros, à la fin, je récupère quelque chose, c'est une constante plus norme de lambda en module. Qui du coup ne tend plus, n'explose plus quand y tend vers zéro. C'est ça l'intérêt. Du coup, voilà, ça me montre que cette limite-là, en module, je vais pouvoir la majorer par l'intégrale de 1 plus d sur dx à la puissance alpha plus 1 de phi. Et puis j'ai quelque chose du genre une constante plus x dx. J'ai peut-être oublié un carré quelque part parce que en tout cas dans l'article de A groupe là il y a un carré mais ça change rien. Donc phi ça va être une fonction continue à support compact. Donc cette quantité là c'est phi elle va être par exemple à support sur le spectre sur moins de 2, par exemple. Donc, cette quantité-là, elle est bien contrôlée par une norme C alpha plus 1. D'accord ? Donc, voilà, j'ai fait un peu en détail parce que c'est pas complètement... Voilà, il y a vraiment ce changement de contour qui est assez malin. Et après, comme j'avais dit la dernière fois... une fois que je sais que ces deux choses sont proches avec un reste en 1 sur n carré contrôlé par une norme CK, en fait, je vais prendre une fonction phi qui est nulle sur un voisinage du spectre de H. Pour conclure à la convergence forte. Bon, je sais que mu de phi, c'est écrit là-bas. Donc, pour comparer les spectres, prendre phi identiquement nul sur un voisinage du spectre de H. Donc ça veut dire que mu de phi est nul. Et donc ça me donne que mu n de phi, c'est un grand taux de 1 sur n carré. Mais mu n de phi, et puis je vais la prendre, faut qu'elle soit identiquement égale à 1. Et phi identiquement égale à 1 sur... le complémentaire d'un petit voisinage du spectre. De sorte à pouvoir dire que mu n de phi, en fait, il contrôle 1 sur n fois le nombre de valeurs propres. Fois le nombre de valeurs propres de Hn dans le support de phi. À l'extérieur. D'accord, donc c'est vraiment important ici. Ce qui est important ici, c'est d'avoir une puissance strictement plus grande que 1, en fait. Donc ça, ça... Bon. Et puis, c'est une espérance. Donc, comme j'ai dit la dernière fois, à ce stade, en fait, ça me montre une convergence forte en probabilité, parce que ça va me dire que la probabilité d'avoir des valeurs propres loin du spectre de H tend vers zéro. Si je voulais une convergence presque sûre, en fait, après, il faudrait estimer les variances de ces choses-là pour pouvoir faire un Borel-Cantelli à un moment. Ce qui demande encore un petit peu, c'est un peu de concentration de la mesure à la fin. Donc voilà, ça termine cette présentation. J'ai voulu montrer un petit peu des choses qu'il y avait en commun avec la méthode polynomiale. En fait, pour les graphes réguliers, il y a cet article récent aussi qui a beaucoup fait parler de lui, là, de Wang, Yao et Mackenzie, qui traite vraiment les graphes réguliers aléatoires par des techniques de matrices aléatoires, donc de manière différente de ce que j'ai dit. Ils n'utilisent pas la formule des traces. Je vais quand même écrire cette référence au tableau. Hein, c'est... Wang, je sais plus l'ordre de l'alphabet. C'est bon comme ça. En fait, ils ont traité les graphes aléatoires réguliers, donc le même modèle qu'on avait vu précédemment, mais par des techniques de matrices aléatoires, donc finalement par des techniques un peu de ce type, en particulier en étudiant la résolvante et en montrant que la résolvante satisfait presque une équation de points fixes. Et ils l'ont fait de manière très fine. Donc, bien au-delà de ça. On traitait le cas des graphes réguliers aléatoires. Donc ça, c'est des articles 2024-25. Par des techniques un peu... Enfin, dire similaires, c'est un peu exagéré, mais par des techniques des graphes réguliers aléatoires, par des techniques... techniques de type matrice aléatoire. Donc ils se sont basés sur une équation de points fixes. Et en plus, ils ont réussi, ici, on fait tout à... vous voyez qu'en fait, si mes erreurs, si elles sont du type partie imaginaire de lambda moins 1 sur n carré, ça me dit qu'en fait, je peux même faire tendre la partie imaginaire vers 0 à une certaine vitesse dépendant de n, et ça me permet de raffiner un petit peu ces estimés en disant que les mesures sont proches en fait sur des petits intervalles, et eux ils l'ont fait en fait vraiment à une vitesse optimale. Et par exemple, ce qui montre, c'est ce résultat très remarquable, qui est que si on regarde la matrice d'adjacence d'un graphe régulier aléatoire, toujours avec la renormalisation par racine de Q, si on prend par exemple la première, je ne sais plus quelles étaient mes notations, mais si on prend la première valeur propre non triviale, alors la convergence forte nous dit qu'elle tend vers 2. Elle nous dit que le lambda 1 est proche de 2, plus ou moins epsilon, mais en fait, eux, ils peuvent montrer quelque chose de beaucoup plus fort, c'est que en fait, si on prend lambda 1 moins 2, et qu'on multiplie par n puissance 2 tiers, en fait, il y a une loi limite, il y a la loi de Tracy-Widom. Donc ça dit vraiment non seulement la convergence forte, mais une vitesse de convergence complètement explicite et optimale. Donc c'est une convergence en distribution vers la loi de Tracy-Widom. Et puis à l'oral, je veux aussi citer quand même à la fois Puder, Maggie, Van Handel, Machera, Hyde Thomas, et puis Wu, je ne sais plus qui sont les deux collaborateurs, enfin, pour appliquer des techniques, enfin, cette nouvelle méthode polynomiale, ils l'ont appliquée pour des modèles de, pour trois modèles différents de surface hyperbolique aléatoire. Voilà, je vous remercie. Et puis peut-être à la semaine prochaine pour ceux qui viennent au colloque.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.